Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Aujourd'hui dans le magazine, nous sommes avec deux invités, Fernando Lima et Marine Rodalec, deux musiciens, musiciennes, violoncellistes. Et donc, je vous ai rapidement présenté au début de cette émission, mais je vais vous laisser vous présenter plus amplement. Qui êtes-vous alors ? Qui veut commencer ? Fernando ?
Oui. Donc, moi, je suis professeur de violoncelle au Conservatoire du Briançonnais. Donc, c'est mon activité principale. Donc, j'enseigne tout au long de l'année à des enfants et à des adultes, des jeunes de tout âge. Et puis, je suis directeur aussi du Festival Violoncelle en Folie, qui a lieu justement en ce moment. Et à côté de ça, j'ai une vie de musicien où je fais des concerts, notamment avec mon ensemble de violoncelle Tanzmann, quatuor de violoncelle Tanzmann. Et j'ai un groupe de musique brésilienne aussi, c'est l'ensemble Tempo de Brasil.
D'accord. Et nous venons d'écouter, d'ailleurs, une musique de cet ensemble, Tanzmann, d'un album que vous avez sorti il y a
10 ans.
10 ans.
10 ans, exactement.
10 ans.
Oui, oui. C'était un extrait d'un quatuor d'un compositeur croate que nous aimons beaucoup, c'est Rudolf Matz. Et voilà, donc c'était ce premier album qui était avec beaucoup de musique du XXe siècle, dont ce compositeur. C'était un album très, très éclectique. Mais après 10 ans où on a beaucoup tourné ce programme, on s'est dit il serait temps de tourner la page et passer à de nouveaux projets.
Et donc, vous en avez sorti d'autres depuis ou vous êtes en cours de...
Non, ça y est, le deuxième album est sorti il y a 2 jours, le 9.
Ah oui.
Voilà, nous avons fait le concert de lancement. Et c'est donc le premier s'appelait Légende, celui-ci s'appelle Poésie. Donc très, très axé sur le lyrisme et le côté poétique de l'opéra. Donc c'est un violoncelle très, très chantant et poétique.
Et Marine Rodalec, alors
Donc moi, je suis violoncelliste. Tout comme Fernando, j'ai une activité vraiment de concert, voilà. Et aussi, j'ai toujours désiré transmettre. Donc là, depuis 3 ans, je suis professeure au Conservatoire de Marseille. Et avant, j'ai été aussi enseignante dans une école privée, voilà, autour de la méthode Suzuki. On en parlera si on a le temps. Donc voilà, j'ai toujours eu en équilibre cette vie, on va dire, d'artiste, d'interprète et cette vie d'enseignante pour transmettre aux générations futures.
Double casquette, musicien, enseignante. Effectivement, on reviendra sur cet aspect plus d'enseignement, de passation. Mais d'abord, quand même, puisque c'est l'objet de votre présence ici, il y a ce festival Violoncelle en Folie. Fernando, vous êtes organisateur, comme vous le disiez tout à l'heure, de ce festival. Que faites-vous pendant ce festival en tant qu'artiste, musicien ? Vous donnez des cours, il y a une résidence, vous êtes sur plein de niveaux différents tous les deux ?
Oui, disons que... Donc, il y a la partie enseignement. Je m'occupe des grands ensembles, des orchestres. On crée des orchestres de violoncelle. Donc, je m'occupe de ça. Donc, il y a 3 orchestres avec des adultes. Il y a l'orchestre des jeunes. Et à côté de ça, nous avons l'ensemble de 12 violoncellistes en résidence. Nous proposons un programme tous les ans. Et voilà, donc Marine peut peut-être parler
voilà,
de ce
ensuite, dans ce festival, il y a, comme le dit Fernando, des moments de cours particuliers. Donc, moi, par exemple, ça me concerne. Donc, on peut avoir des adultes, des jeunes adolescents pré-professionnels, c'est-à-dire qui projettent de devenir professionnels, et aussi toute une partie de stage enfant. Donc, voilà, c'est vraiment un stage où on retrouve toutes les générations, et à la fois la pratique amateur, la pratique presque professionnelle, et toute la partie où on commence à apprendre, donc toute l'enfance. Donc, c'est assez unique, j'ai envie de dire, sur les propositions. Comme ça fait 15 ans que je viens, j'ai fait plusieurs choses. J'ai eu donc des fois les travails de pupitre des adultes, c'est-à-dire le groupe de musique de chambre. J'ai beaucoup eu aussi le stage enfant. Je l'ai de nouveau. Puis après, je suis passée aussi par un moment, j'ai pris les jeunes avec des ateliers autour de l'initiation à l'improvisation. Voilà. Et les cours particuliers.
Et donc, c'est particulier pour vous parce que ce sont peut-être des publics que vous n'avez pas d'habitude, ou en quoi c'est très particulier?
Alors, moi, le public enfant, vraiment, ça, j'ai vraiment l'habitude. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Ensuite, dans le cadre du conservatoire, à Marseille, en tout cas, on a malheureusement jamais assez de place pour les adultes. Mais j'ai déjà eu quelques adultes. Mais c'est vrai, là c'est vraiment le temps de ces amateurs, quoi. C'est assez exceptionnel pour eux, parce que c'est toujours des gens très très investis dans leur passion. J'adore ce côté amateur de la musique, où vraiment on a des gens qui y consacrent dès qu'ils peuvent ce temps au violoncelle, à la musique. Donc là, c'est vrai que j'ai ce public-là pour enseigner d'adultes que je retrouve moins dans ma pratique à l'année.
Et ce sont des publics du Briançonnais ou des personnes viennent d'ailleurs pour participer à ces cours et à ces stages?
Alors, il y a des gens de partout en Europe. Cette année, nous avons des stagiaires d'Albanie, Italie, Suisse, Belgique, Allemagne, et puis de France, de partout, de Bretagne, Alsace, de toute la France. Et heureusement aussi, les stagiaires briançonnais. Il y a une bonne partie des stagiaires qui viennent d'ici. Comme j'ai la classe de violoncelle au conservatoire, je suis très content d'avoir l'opportunité de faire un stage comme ça sur place.
Oui, avec donc d'autres professeurs qui viennent aussi d'ailleurs. Et oui. Donc, vous avez ces 12 violoncellistes aussi qui travaillent ensemble.
Oui. Donc, quand j'ai créé ce festival, c'était justement pour sortir un peu. On est un peu loin de tout. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse venir les amis et les gens que j'admire en tant que violoncelliste, en tant qu'enseignant. Donc, Marine est là, entre autres, parce que je connais ses compétences. Elle a un contact extraordinaire avec les enfants.
Et voilà, vous connaissiez avant?
Alors, comment je suis arrivée ici, peut-être?
Oui,
c'est ça.
Exactement.
Alors, moi, je suis arrivée dans ce stage grâce à Aude, qui est donc la co-directrice du festival et la femme de Fernando. Parce que je suis formée aussi en musique ancienne, alors violoncelle baroque. Donc, c'est tout ce qui concerne la musique, on va dire, 17e, 18e, où on a un autre instrument, bref, une autre pratique. Et donc, Aude était ma professeure au conservatoire d'Aix-en-Provence. Et donc, je suis arrivée par ce biais-là. Et je connaissais Fernando un peu de nom comme ça, mais après, je suis arrivée. Et depuis, je ne suis plus jamais partie, revenue chaque été. Parce qu'il y a eu vraiment un lien de confiance, d'amitié, de partage de valeurs. Ce qui est unique dans cette équipe de 12, qui est très fort pour moi en tout cas, c'est cette espèce de voilà, les valeurs. Pour moi, c'est tous des gens très excellents dans toutes leurs pratiques pédagogiques et de violoncelliste, et avec une grande humilité aussi et une grande générosité. Et moi, vraiment, je retrouve chaque année cette espèce d'endroit précieux. Voilà.
Et ce sont toujours les mêmes qui reviennent chaque année, plus ou moins?
Si, plus ou moins. Mmh. Il y a disons qu'au départ, on était 4, 5. On a commencé même avec 3. Marine est arrivée quand on était...
5 ans, ouais, il y a 15 ans.
Ouais, donc on était déjà 6 ou 7, peut-être 8 profs, voilà. Maintenant, nous sommes 12. Donc... tous les ans, on essaie d'inviter un professeur différent, mais des fois, et souvent même, c'est des coups de cœur. Donc, on dit, on ne peut plus se séparer. Donc,
ils reviennent. Est-ce qu'il y aura une limite à un moment?
Je pense qu'on a atteint,
la limite d'accueil,
largement cette limite.
Oui, parce que déjà, jouer à 12 violoncellistes, ça se passe comment?
C'est, comment dire, c'est pas facile, mais c'est extrêmement gratifiant parce que c'est beau. 12 violoncelles, c'est vraiment très, très, très beau. Et surtout quand c'est 12 musiciens qui s'entendent bien, c'est un régal, c'est un plaisir. Moi, je...
Votre entente humaine s'entend dans votre musique.
Je pense. D'ailleurs, donc nous faisons ces concerts de 12 à 12 violoncelles pendant le festival depuis quelques années. Et l'année dernière, le problème, c'était qu'il y avait tellement de monde qu'on a dû refuser, je ne sais pas, 70, 80 personnes qui sont restées devant la porte. Et donc, cette année, on s'est dit, ben, on va doubler le concert parce que les gens, ils adorent. Parce que c'est des concerts très populaires. Donc, il y a des enfants, ils peuvent faire un peu de bruit s'ils veulent. Ça ne nous gêne pas trop quand s'ils veulent applaudir au milieu des morceaux. Et donc, ça plaît beaucoup aux familles et au public en général, des connaisseurs ou pas. Ça, je pense que ça vient beaucoup de ce que se passe entre nous.
De cette équipe de 12 violoncellistes. Et donc, le violoncelle, vous disiez, donc vous jouez des styles parfois différents, là même entre vous. Est-ce qu'on peut revenir sur le répertoire qu'on peut jouer au violoncelle? Quels choix sont possibles? Comment on se dirige vers tel ou tel répertoire?
Ce qu'il y a de bien avec le violoncelle, je parle par rapport à ce que moi, j'ai vécu et ce que je ressens. Fernando, tu me diras si tu veux compléter. Je trouve que c'est un instrument très polyvalent. Et d'ailleurs, ce festival en est aussi le reflet, puisqu'on va de concerts, on va dire, très classiques à des concerts complètement de musique de monde, de jazz. Et c'est vraiment un instrument qui permet de parcourir tous les styles musicaux.
D'ailleurs, on a eu avant-hier un concert d'un musicien de Marseille.
Ouais, Guillaume Latil.
Guillaume Latil, qui est un incroyable musicien de jazz. Et voilà, c'est un exemple de musicien qui a eu une formation très classique et qu'à un moment donné, il s'est dit, mais c'est ça que j'aime, c'est le jazz. Et il s'épanouit.
On peut vraiment aborder tous les langages, j'ai envie de dire. Mais même pour aller plus loin, on peut le développer après dans la pop ou partager aussi des scènes. Moi, j'ai pu faire ça avec un slammer. Enfin, c'est un instrument, on dit que c'est l'instrument le plus proche de la voix humaine. Donc, on a des graves et puis on peut monter très haut dans les aigus. J'ai envie de dire, on est indépendant presque, parce que vraiment à 12, on peut passer d'un son comme de la contrebasse à des sons très hauts comme le violon quasiment. Donc voilà, c'est un instrument très, très riche et aussi très expressif. Moi, j'ai rencontré beaucoup de non-musiciens et le son, la sonorité du violoncelle a un effet souvent très fort dans le public parce que peut-être les fréquences, la tessiture, cette chaleur de son, voilà.
On l'imagine pas toujours puisque le violoncelle, peut-être dans l'imaginaire, reste quand même un instrument de musique classique.
Oui, oui. Mm. Mais je pense qu'il s'est passé quelque chose dans les années 2000.
Ouais.
Mais un peu partout, hein, parce qu'au Brésil, il y a eu des violoncellistes qui ont décidé de jouer justement de la musique brésilienne, la bossa nova. Mais en Europe, il y en a eu d'autres qui sont partis dans le rock, dans le métal. Mmh. Et j'ai l'impression que c'était musique du monde en Afrique du Sud. Avec des
tous les styles maintenant.
Ah oui, c'est vraiment incroyable. Du rap, l'année dernière, on a eu du violoncelle rap. Voilà,
donc, au festival.
Au festival.
Et vous, alors, vers quel style vous vous orientez dans votre pratique de violoncelle?
Alors, moi, personnellement, comme je viens d'une famille non musicienne, enfin, je suis, la première, si vous voulez, j'ai découvert spontanément tout ce monde de la musique classique, donc j'ai une espèce d'appétit insatiable sur tous les styles, donc j'arrive, moi, dans ma vie, et je sais déjà que j'aurai pas assez de temps pour tout découvrir, tout est aussi, parce que c'est beaucoup de travail, hein. Par exemple, donc je disais tout à l'heure, je me suis formée, donc il y a l'apprentissage classique, on va dire, donc tout le répertoire du violoncelle, et après, moi, j'ai eu très vite envie de découvrir et d'enrichir ma pratique, donc je me suis tournée aussi en plus vers la musique baroque. Mais à chaque fois, c'est des nouvelles études, si vous voulez. On prend un nouveau professeur pour apprendre et s'imprégner du langage et des techniques. Après, j'ai aussi toute une part de la création contemporaine. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la rencontre avec les compositeurs, les compositrices, la création. Voilà, c'est tout un autre monde aussi, un autre langage. Et c'est un peu, j'ai envie de dire, pour moi en tout cas, d'apprendre plein de langues différentes avec un même instrument. Et d'ailleurs, peut-être c'est lié, j'adore les langues. Et je me dis, à chaque fois, on découvre un nouvel univers. J'ai découvert le monde de l'opéra assez tard, puisque je n'avais pas cette culture. Donc voilà, moi, je n'ai pas vraiment de limites. Et je suis allée, donc c'est pour ça que je suis toujours partante pour les projets. Donc j'ai pu jouer aussi avec un groupe de rock, comme je vous disais, un slammer, même la musique électro. Voilà, j'ai besoin moi de tout découvrir. Et l'improvisation, je m'y suis frottée, je m'y frotte. Pas au niveau de Guillaume Latil, parce que c'est encore d'autres études. Si vous voulez devenir jazzman, c'est encore des années d'études. Mais voilà, moi j'ai envie de dire que j'ai pas envie de limiter le style, mais et ça c'est grâce aussi aux études de haut niveau qu'on a tous fait, hein, qui nous permettent techniquement d'être libérés et de pouvoir appréhender tous les styles musicaux.
Tout en continuant d'apprendre à chaque fois, en fait, ce que vous
disiez
aussi.
Oui, quelque
aussi.
Part, c'est d'intégrer un nouveau langage, un nouveau monde. Et bon, moi, c'est ça qui me fait vibrer à chaque fois, voilà.
Et vous, Fernando?
Alors, comme Marine aussi, donc je fais un parcours. Qu'on appelle un parcours classique. Donc, c'est vraiment tout ce parcours où on acquiert une technique qui nous permet d'aller aborder tous les répertoires. Je me suis aussi spécialisé dans la musique baroque aussi. Mais finalement, je me suis dit, je ne peux pas me disperser. Je n'ai pas cette capacité de faire tant de styles. Donc, je suis resté sur plutôt le classique et puis la musique brésilienne. Parce que je suis très, très attaché et j'ai des amis avec qui on partage des goûts musicaux brésiliens. Donc, entre la bossa nova, le choro, notamment, c'est deux styles principaux et les musiques du nord-est du Brésil. Et donc, voilà, je peux dire que je suis plutôt dans le classique romantique, puis la musique brésilienne.
Donc, une autre approche, finalement, oui. Un autre répertoire. Alors, je vous propose de faire une petite pause musicale. Et comme on a déjà écouté donc un morceau de votre quatuor Fernando, je propose d'écouter plutôt une musique d'un ensemble dont vous avez fait partie, du Café Zimmermann. Donc, c'est un extrait, vous allez le reconnaître, vous nous le présenterez peut-être après. Nous sommes avec Fernando Lima et Marine Rodalec, deux musiciens, deux violoncellistes. Et donc, on parpote, nous, pendant la pause musicale. Et on parlait justement du fait qu'on pouvait parler violoncelle pendant des heures, surtout vous qui vous réunissez qu'une fois par an tous ensemble et que vous êtes forcément des passionnés. Donc, c'est l'occasion pour vous de vous retrouver. Donc, on vient d'entendre un extrait donc, du Café Zimmermann dont vous avez fait partie, Marine.
Voilà, j'ai collaboré avec cet ensemble pendant 4 ans et, en tant que deuxième violoncelle. Et voilà, on a fait beaucoup de concerts. Et cet extrait est donc tiré d'un concert qu'on avait fait au Grand Théâtre de Provence, à Aix-en-Provence, et avec cette chanteuse Sophie Kartauser. Il y avait beaucoup d'airs de Mozart. Voilà, et j'avais collaboré à un, ils ont fait beaucoup d'albums, à un de leurs albums, L'Estro Harmonico de Vivaldi, où on peut entendre des concertos de Vivaldi.
D'accord. Donc ça, on a parlé un peu de votre répertoire, de vos différents, j'allais dire, groupes de musique. Je ne sais pas si on peut dire groupe de musique.
Ensemble.
J'aimerais parler de votre rapport à l'instrument aussi. Vous avez, j'imagine, un instrument, ou peut-être que vous pouvez en avoir plusieurs en tant que violoncelliste, et quel est votre rapport à votre instrument à vous?
On peut avoir deux instruments, notamment Marine qui change de répertoire, donc elle peut parler mieux que moi de son instrument, mais donc, qui a un instrument qui fait le répertoire plus romantique et plus
moderne.
La musique moderne, et puis un instrument spécifique pour la musique baroque. Et j'en ai un, mais je me contente de le pratiquer à la maison, de me faire plaisir avec des suites de Bach. Le rapport avec l'instrument est très fort parce qu'on passe une bonne partie des journées
à l'éteindre
dans les bras. Il y a les personnes qui aiment beaucoup la lutherie actuelle, donc qui vont chercher un luthier qui va construire un instrument pour eux, qui ont des demandes très spécifiques. Dans mon cas, j'aime beaucoup tout ce qui est ancien et j'aime beaucoup la sonorité aussi de certains instruments d'une certaine époque, notamment le 18e en Italie. Et donc, j'ai un violoncelle de cette époque.
Du 18e ?
Du 18e, oui, oui.
C'est vraiment
Marine,
ancien.
Je pense qu'elle a un instrument.
Alors, moi, il est moins vieux, mais c'est un italien aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu une grande époque de la lutherie en Italie. Alors, bien qu'aujourd'hui, il y a un grand, grand niveau de lutherie aussi hein, sur les constructions d'instruments modernes.
Notamment en France.
Hein, notamment en France, il y a vraiment de grands luthiers là qui... Donc après, moi, je pourrais compléter ce que dit Fernando. Je dirais que c'est une question de rencontre aussi. Pour moi, j'ai eu très tôt une idée du son que je voulais entendre dans ma tête. Hein. Et donc, pour l'histoire, ça peut plaire peut-être aux auditeurs, je suis partie avec le premier violoncelle, parce qu'aussi on change, parce qu'on ne sait pas peut-être au début qu'on va en faire son métier, donc on n'a pas des instruments non plus. Donc on passe d'un instrument, on va dire, d'études, et puis après un instrument professionnel. Et tout ça, bien sûr, ça a un coût. Donc on attend d'être sûr d'en faire son métier pour changer de catégorie, j'allais dire. Donc moi, le premier instrument, c'est une très belle histoire. Je suis partie faire un tour de France avec mon père en camion. Et puis on avait appelé les luthiers et j'avais essayé des instruments avec le budget possible, bien sûr, parce que ça, on n'est pas tous égaux sur ce qui est possible. Et voilà. Et après, mon violoncelle actuel professionnel, c'est un Italien, alors un peu plus vieux. Il est du début du 20e siècle. Et bien, en fait, pareil, j'en ai essayé plusieurs. Je suis allée voir des luthiers et ça a été un coup de cœur. Et bon, voilà, il ne me quittera pas. C'est un partenaire de vie, j'ai envie de dire, qui traverse toutes nos étapes. Et ben, il est là, quoi. Voilà, c'est vraiment un partenaire. Et des fois, ben, c'est le reflet. Souvent, on dit que c'est le reflet, le son qu'on a, c'est un peu le reflet de notre âme, de notre... Et il y a des jours, ben, c'est comme... Des fois, ça ne va pas. Donc, ça sonne pas. Moi, je vois ça, c'est très vivant. Enfin, le bois est vivant, le son est vivant. Ils sont sensibles à la température. Voilà, c'est vraiment un rapport... moi j'adore ça.
Et est-ce que c'est courant de changer son instrument au cours du parcours de musicien ou on a tendance à garder le même?
Oui, en début de carrière, on peut, en général, même comme Marine a dit, on passe à un niveau professionnel, mais pas forcément le définitif. On a un instrument qui va faire l'affaire, donc on peut faire des concours, on peut faire des premiers concerts, mais... Souvent, on se dit, il faut que j'aille plus loin. Donc, c'est une recherche personnelle. Il faut pour que si je veux aller plus loin dans ma carrière, il faut que je travaille plus. Mais il faut que j'ai l'outil nécessaire pour ça. Et c'est là qu'on commence vraiment à s'intéresser sur les types d'instruments vers lesquels il faut aller.
Et comment on en arrive, je reviens en arrière, moi, je remonte le temps dans cette émission, comment on en arrive à vouloir devenir professionnel du violoncelle? Quel est votre parcours? Qu'est-ce qui vous y a amené, vous?
Je pense que c'est... Moi, je pense que dans la vie, tout, c'est une question de rencontre. Et parce que moi, je viens, contrairement à Marine, je viens d'une famille de musiciens. Donc, j'ai fait de la musique quand j'étais petit. J'ai commencé très tôt. Ma mère était prof de piano. Mon père jouait du violoncelle aussi. Mais à 12, 13 ans, je voulais surtout pas faire ce qu'il faut. Donc, j'ai arrêté. Je voulais jouer le foot. Et voilà, ça me suffisait largement. Voilà, et un jour, j'étais au lycée. Et j'avais arrêté depuis 2-3 ans. Et un copain m'a dit qu'il jouait du violon et qu'il jouait dans un orchestre qu'il fallait que je vienne écouter. Et donc, comme ça sortait complètement du cadre de l'enseignement d'où je venais, le cadre familial, je suis allé écouter ça et j'ai trouvé ça merveilleux. Et je pense que ce jour-là, je me suis dit, je veux faire ça. Mais évidemment, il y a les moments après, quand on a 18 ans, on se dit, est-ce que j'ai le bagage nécessaire pour en faire le métier? Donc, je suis parti un peu sur d'autres études, mais finalement, je me dis non, c'est pas ça, c'est la musique et j'ai foncé.
À 18 ans, alors, c'est pas trop tard, il y a un âge
pour décider, non. À 18 ans, j'ai décidé. Oui.
Donc, mais vous jouiez déjà.
Oui, je jouais. Et d'ailleurs, les 3 années de lycée, je jouais beaucoup. Mais au moment du bac, et donc au Brésil, donc les concours pour les universités, j'ai fait les concours parce que mes parents, ils disaient, mais attends, c'est beau de jouer, mais il faut aller là où il y a du boulot derrière. Mmh. Pour l'instant, c'est...
Eux n'en vivaient pas de la musique.
Oui, ma mère, oui, mais si. Mon père, non. Mon père, il était un musicien frustré parce qu'il était ingénieur, musicien, et à un moment donné, il a dû faire le choix. Et son choix a été voilà.
Ingénieur.
Voilà.
D'accord.
Mais voilà, avec ce rêve d'être musicien.
Et vous, Marine?
Alors moi, je réfléchis beaucoup à cette question, ça m'intéresse beaucoup. Donc à chaque fois, je demande un peu à mes amis musiciens. Et donc avec les années, j'ai un peu un recul. J'ai l'impression que chaque histoire finalement est unique. Alors après, il y a cette histoire du milieu. Hein. J'ai rencontré le violoniste qui va jouer ce soir, Victor-Julien Laferrière. On a joué ensemble il y a quelques années, on a eu cette discussion. Et lui, il m'a expliqué qu'il était d'une famille de tradition de musiciens depuis toujours. Donc la question de devenir musicien est complètement naturelle. Voilà. Et on a discuté, où moi je lui présentais mon parcours, et il était très, très touchant parce qu'il était assez fasciné de savoir comment on peut devenir musicien sans. Voilà. Donc il y a tout type. Pour moi, je pense, ça a été la rencontre avec mon professeur d'enfant, où là j'ai accroché à l'instrument, hein, parce qu'il ne faut pas oublier, tout ça, c'est une question de lien, je crois. Hein, comme pour tous les apprentissages, le lien est fondamental. Voilà, donc cette professeure, Chantal Darietto-Latil à Marseille, où bon, moi, j'ai fait de la musique. Après, c'est des caractères aussi, hein. J'étais une enfant studieuse, ça me plaisait, cette espèce de régularité. Alors moi, je voulais faire juge pour enfants, enfin, j'étais complètement dans la défense de contre l'injustice. Bon, finalement, j'ai réussi presque à concilier les deux, donc je suis contente. Et moi, ça s'est décidé après le bac, parce que j'ai fait un bac littéraire, donc Et finalement, je me suis rendu compte, mais sans... là, j'ai le recul maintenant, je vous parle avec le recul, que le violoncelle ne m'avait jamais quittée. Et pour moi, j'ai eu beaucoup de chance, donc je parlais de tous mes professeurs, hein, je suis vraiment chanceuse, où le rapport à l'instrument a été très tôt avec le plaisir, le partage, les concerts, enfin, il y a eu cette espèce de... Et du coup, après le bac, j'ai dit, bon, j'étais un peu en fac d'histoire, mais je n'étais pas convaincue, je me suis dit, je vais essayer que le violoncelle. J'étais à ce moment-là rentrée au Conservatoire National de Région de Lyon. Je me dis, après tout, je peux essayer qu'un an. Et puis, on verra bien. Et de fil en aiguille, j'ai envie de dire, ça a marché. Et j'ai découvert petit à petit les conservatoires supérieurs de Marseille, de Lyon et Paris. Et après, je suis partie à Genève. Et pareil, comme dit Fernando, ça a été des rencontres. J'ai une copine qui m'a dit, mais viens à la Haute École de Musique de Genève. Et alors après, ce qu'il faut dire quand même, c'est un parcours très... Enfin, il faut vraiment le vouloir parce qu'il y a à chaque fois un concours d'entrée, un concours de sortie et puis de nouveau des concours. Donc voilà, il y a quand même ce côté, on ne peut pas lâcher. Moi, j'ai toujours cette anecdote de mon professeur où j'avais pris 15 jours de vacances. Hein, et il m'a dit, mais Marine, si tu veux en faire ton métier, c'est la première et dernière fois que tu t'arrêtes 15 jours. Donc il y a quand même une régularité et une espèce d'exigence. Personnellement, je suis jamais partie 2 mois en vacances l'été. Il y a les stages qui commencent très tôt, comme on propose maintenant aux jeunes pré-professionnels. Voilà, cette espèce de rigueur, mais c'est aussi une question de caractère. Moi, ça m'a toujours plu. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans la musique, que je dis à mes élèves maintenant, c'est que en travaillant, on y arrive. Alors, il faut s'y mettre au travail, il faut pas lâcher, mais il y a un résultat, en fait. Donc, il y a ce côté, oui, peut-être des fois qui peut paraître un peu difficile, mais bon, quelle chance. Maintenant, moi, je crois, on peut parler au nom de Fernando. Enfin, professionnellement, moi, je me lève le matin, je suis heureuse d'aller travailler. Ce qui est vraiment très précieux, je pense.
Et en plus, donc cette question du mérite, vous disiez, on travaille, on a du résultat, il n'y a pas une question d'un don qui apparaîtrait, vous croyez, dans ce travail et les résultats?
Je ne parlerai pas de dons, je parlerai d'environnement. Et ouais. D'ailleurs, Suzuki, donc la méthode dont j'ai été formée, il parle de ça, c'est-à-dire que c'est un environnement qu'on crée pour l'enfant. Donc, plus il va être nourri, il compare ça un peu à une plante, hein, un équilibre avec de l'eau, du soleil, plus la plante va pousser, Hein, et c'est un peu pareil, je nourris. Donc forcément, on peut partir avec un bagage, on connaît déjà tous les compositeurs, ça peut aider. Mais en même temps, moi, par exemple, ce côté complètement spontané, ça ne m'a pas empêché de rencontrer des grands professeurs, de côtoyer les plus grands musiciens. Donc le don, moi, je ne sais pas, c'est un avis personnel. Je pense que c'est une sensibilité et une expressivité, mais le don qui viendrait de nulle part, moi, j'y crois pas trop, voilà.
Et je profite pour les trois dernières minutes qui nous restent d'avoir un mot sur votre expérience en tant que professeur. Tous les deux, vous êtes professeurs. Vous parliez de la méthode Suzuki, donc peut-être un mot sur qu'est-ce que vous faites, comment vous enseignez, comment on transmet ce travail que vous avez fait et puis cette expertise, entre guillemets, du violoncelle.
Ce que j'essaie de mettre en place ici, dans mes cours à Briançon, c'est que les enfants, tout de suite, ils comprennent que la musique, elle est faite pour être partagée. Et donc, tout de suite, on commence par jouer ensemble. C'est la première chose. Et ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est de comprendre que pour pouvoir partager, il faut avoir de quoi partager. Si je veux partager de l'eau, il faut que ma gourde qu'elle soit remplie. Et ça, on le remplit tout seul à la maison. C'est le fruit du travail qui va te permettre de partager ta musique. Et voilà. Et donc, suite à ça, donc, il y a l'environnement, donc, de créer ce lien entre les proches, la famille de l'enfant, l'école, le conservatoire, le professeur, et tout ça autour et pour l'enfant.
Et vous, Marine, un mot à ajouter sur...
Alors pareil, de toute façon, la pédagogie, c'est l'histoire aussi d'une adaptation à la personne qu'on a. C'est une histoire humaine, en fait, hein, qui j'ai en face de moi, quel enfant, quel adulte, et de toujours réfléchir à comment je vais rendre accessible, comment il va comprendre, parce qu'on le sait bien, quand on discute, toutes les choses ne sont pas perçues de la même manière autour d'un mot. Et la pédagogie, c'est ça, c'est l'art aussi de transformer et de proposer des images ou des dessins ou des métaphores et de connaître la personne en face pour qu'il puisse comprendre. Et bon, comme le dit Fernando, le travail à la maison, il faut vite le comprendre, ça, pour pouvoir partager ensuite. Et la pédagogie, c'est ça, c'est l'ouverture à l'autre, le partage. Moi, j'adore partager, là, quand on se retrouve, nos expériences. Et on s'enrichit tous de cela et on le transmet parce que nous, on est tous de passage. Donc après, ça sera plus nous, ça sera les enfants. Et j'aime bien cette idée de planter une graine et aussi les mêmes valeurs d'universalité. Voilà, on est tous égaux, en fait, quand on joue ensemble.
Rapidement, il nous reste une minute. Où est-ce qu'on peut vous suivre les prochains projets là, à court terme?
Mais
que
demain.
Vous avez. Demain, effectivement, le concert dans le cadre de Violoncelle en Folie.
Exactement.
Et peut-être des projets personnels aussi
Là, pour le moment, c'est le temps de diffusion du nouvel album. Donc, c'est les concerts.
Suivre les concerts.
Suivre les concerts qui arrivent avec le Quatuor de violoncelle Tanzmann.
Très bien, donc suivre Tanzmann.
Et pour moi, je vais avoir un moment important, là, c'est le 20 septembre, la sortie du disque avec en trio, violon, violoncelle, piano, un disque qui sera axé autour des compositrices, avec une compositrice du C.C. Chaminade, donc du 19e siècle, et début 20e, fin 19e, début 20e, et que des créations de compositrices d'aujourd'hui, arméniennes, Chypre. Voilà, donc ça va être le gros moment de la rentrée, et puis après des concerts dans l'année.
Très bien, merci à tous les deux, Marine Rodalec et Fernando Lima.
Merci.
Merci auditeurs et auditrices, à très bientôt dans le magazine du midi.
Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ? À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.